BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour. Léger répit hein, sur les marchés financiers obligataires ce midi. Le CAC 40 toujours légèrement dans le vert. Et les dettes souveraines en petite baisse, mais toujours à des niveaux quand même élevés. Autour des 3,80% pour le 10 ans français, des 3,10% pour le 10 ans allemand. En attendant de nouveaux développements sur le front diplomatique au Moyen-Orient, on a appris ces dernières heures que 3 pétroliers chinois et un sud-coréen étaient parvenus à traverser le détroit d'Ormuz, alimentant les espoirs de fin de conflit. D'ici là, les négociations commerciales reviennent dans l'actualité avec d'abord cet accord des Européens sur les droits de douane américains, compromis provisoire trouvé la nuit dernière pour mettre en œuvre l'accord conclu l'été 2025 avec Donald Trump. Le président américain avait donné aux Européens jusqu'au 4 juillet pour le ratifier, faute de quoi il menaçait de surtaxes supplémentaires. Les États-Unis qui vont parallèlement rouvrir de nouvelles négociations commerciales avec la Chine, annonce de Pékin dans la matinée, 5 jours après la visite de Donald Trump dans le pays. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, et qui nous concerne, nous, usagers de cet immobilier, de ces logements, des témoignages de votre quotidien et parfois des quotidiens un peu complexes. Aujourd'hui, témoignage clé sur la difficulté de revendre un bien immobilier, certains biens immobiliers en particulier, en l'occurrence un appartement en résidence senior soumis à un bail commercial. Quand on veut le revendre, ça prend du temps. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Ils nous avaient manqué, ils sont de retour. Notre duo de choc de la fiscalité, encore plein de sujets à aborder. Mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'Immo.
Les experts de l'Immo, le Pro de l'Immo.
Et on est en ligne avec Manon Desmoyens, conseillère immobilier IAD à Toulouse. Bonjour Manon.
Bonjour Marie.
Alors Manon, ça m'a fait rire parce que souvent Venedia, qui travaille avec moi sur l'émission, me résume les interventions des pros de l'IMO du jour, et j'ai mis 4 ans pour vendre un studio, et je me suis dit waouh, bah franchement pas très efficace Manon, mais en réalité
pas très flatteur.
Pas très flatteur, mais en fait quand on creuse, on comprend pourquoi vous avez mis 4 ans à le vendre, ce studio. Racontez-nous Manon.
Exactement, et oui, c'est vrai que l'histoire a commencé en janvier 2022. Comme vous l'avez dit, j'ai un client qui me confie la vente d'un appartement assez particulier, puisqu'il se situe dans une résidence senior, et il est donc soumis à un bail commercial. Donc, à cette époque-là, on fait quelques visites, j'ai une offre sérieuse qui se présente, mais à ce moment-là, la situation se complique, puisque le gestionnaire qui est en place, et dont le bail était arrivé à son échéance, était OK pour le renouveler, mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas les mêmes conditions. Vous le voyez venir, il a voulu revoir à la baisse le montant des loyers qu'il versait aux propriétaires. Donc forcément, face à cette incertitude, l'acquéreur s'est retiré puisque le risque était trop important. On avait une rentabilité qui pouvait chuter jusqu'à 40%.
Ouais, donc effectivement, c'est compliqué quoi. Comment on fait dans ces cas-là?
Oui. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose, hein, puisque à part attendre et suivre les dossiers, puisqu'à ce moment-là, donc tous les copropriétaires étaient très embêtés hein, par cette chute des loyers. Donc, le dossier a été porté devant le juge des loyers commerciaux. Et donc, vous vous en doutez, avec la justice, hein, c'est une procédure un petit peu longue qui s'est engagée. Moi, de mon côté, du coup, ce que j'ai fait, c'est un suivi avec mon vendeur, pour voir au fur et à mesure la procédure, où c'est qu'on en était. Et donc, il s'agit de l'AG 2025 qui a été un tournant pour les copropriétaires, puisque durant cet AG, tous les copropriétaires ont voté la fin de cette gestion.
Il fallait virer le gestionnaire, quoi. C'est à peu près ça l'idée.
Exactement. Alors, soit le garder et négocier de maintenir les loyers exactement sur les mêmes montants, mais pour eux, c'était pas possible parce qu'ils ne rentraient pas dans leur rentabilité, soit se dire on met fin à ce bail. Mais c'est quand même une grande procédure, puisqu'il faut vraiment que chaque propriétaire soit d'accord avec cette décision.
C'est à l'unanimité.
Pas de majorité. C'est ça, exactement.
Mais du coup, Manon, quand même, parce que effectivement, cette histoire, elle commence difficilement, on va pas se mentir, mais elle se termine bien quand même.
Elle se termine bien, exactement. Alors, on a relancé la commercialisation cette année et en une semaine, finalement, c'est deux offres qui sont arrivées. Donc, bon, le propriétaire a même bien fait d'attendre, je dirais, puisque avec la sortie de ce bail commercial, il y a une revalorisation qui a été faite et donc le studio s'est vendu un peu plus de 16% que le prix qu'on avait vendu il y a quelques années.
Ah oui, donc c'est quand même, à la fin, ça se termine bien. Maintenant, la question, c'est est-ce que toutes ces histoires se terminent bien? Est-ce que tout le monde a le temps d'attendre 4 ans pour pouvoir céder une partie de son patrimoine dont j'imagine il avait besoin à ce moment-là, le vendeur? Donc, ça reste complexe quand même.
Alors, ça reste complexe, en effet. Et puis, c'est vrai que même sur la revente, hein, il faut savoir que pour les acquéreurs, c'est très particulier de lire des documents où il y a une sortie. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, une sortie de bail commercial. Déjà que le bail commercial n'est pas du tout connu ni des particuliers qui achètent, ni même de certains professionnels de l'immobilier. Donc après, il y a quand même aussi tout un accompagnement pour rassurer, puisque cette procédure, elle est presque parfaite au niveau juridique, mais c'est pas le cas. Il manque par exemple encore la rédaction du règlement de copropriété. Donc encore des petites incertitudes où il va falloir venir rassurer les acquéreurs.
Ouais, mais c'est intéressant ce que vous nous dites, hein. Et puis surtout, ça donne quand même une vision de l'illiquidité, j'ai envie de dire, de ce type d'investissement. C'est bien de les faire, de se rassurer aussi et de regarder la qualité du gestionnaire. C'est toujours important, hein, dans ce type d'investissement. Maintenant, faut bien se rendre compte qu'effectivement, c'est pas forcément des biens liquides. Donc, il y a quand même un engagement à anticiper au démarrage quand on se positionne. Et j'imagine que vous l'avez dit à l'acquéreur, ça.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, maintenant, l'avantage, c'est que pour l'acquéreur, lui, il récupère vraiment un bien très classique, avec aucune particularité. Donc, pour lui, l'investissement est plutôt sécure.
Bah, écoutez, c'était un témoignage plutôt précieux, j'ai envie de dire, à toutes celles et ceux qui nous regardent, et de se dire, bah, parfois, oui, c'est long, il faut attendre, c'est difficile, mais ça se termine bien, c'est une jolie histoire. Merci, Manon. Manon Demoyen, conseillère immobilier IAD à Toulouse. Si, comme Manon, vous avez des témoignages terrain à nous apporter de vos métiers, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Mais oui, à chaque fois qu'ils sont là, je suis heureuse. En plus, ils ont une mine d'enfer. Stéphane Descartiès, des conseils et formations. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats. Bonjour Jean-Pascal.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Ben ouais, c'est déjà l'été sur le plateau des experts de l'IMO. Et dans vos vies à tous les deux, messieurs, d'autant qu'en plus, ben voilà, à chaque fois, nos sujets, ils sont toujours un petit peu sensibles. Mais quand même, on va démarrer par quelque chose, Stéphane. J'ai pas créé de jingle spécifique, mais Stéphane a gagné son Paris. On parle de quoi ? On parle des calendriers d'interdiction des passoires thermiques à la location. Oui, le calendrier a été revu ou va être revu incessamment sous peu.
Oui, alors c'est pas... Je vais essayer d'avoir le triomphe modeste. Hein.
On vous connaît, mais, Stéphane.
Mais effectivement, je pariais officiellement en juin dernier sur ce plateau que les interdictions de louer des passoires soit allaient sauter, soit allaient être reportées. Bon, bien sûr que c'est ce qui se passe. Alors déjà, une première chose, je suis pas joueur du tout. Et je parie jamais. Sauf quand je suis absolument sûr de gagner.
Du coup, c'est pas un vrai pari.
Ouais, mais quand même. Enfin, à ma connaissance, il y en a pas beaucoup quand même qui l'ont fait. Donc bon, voilà. Mais effectivement, c'était hautement prévisible. On a une crise du logement. D'ailleurs, le ministre Jean Brun se définit lui-même comme le ministre de la crise du logement encore hier soir.
Il était sur le plateau des
chez Edwige Chevrillon. Oui, tout à fait. Donc bon, la situation, on la connaît. Le parc locatif privé s'est écroulé. Le parc locatif social ne suit pas. On est bientôt à 3 millions de foyers en attente de logement. Donc, on a une situation qui est apocalyptique du côté du logement. Donc, bien entendu, on ne pouvait pas sortir les G, les F, effectivement, du parc locatif. Ça ne pourra effectivement se faire que lorsque la situation du logement sera redevenue au moins normale.
Oui,
et là,
alors...
on n'est pas du tout, effectivement, dans une configuration
oui,
normale.
Oui, très rapidement, Stéphane, pour qu'on passe à autre chose, mais enfin, quand même, très rapidement, cet assouplissement, vous dites, youpi, j'ai gagné mon pari, mais enfin, ce que vous redoutez, c'est que ce soit aussi une couche de complexité supplémentaire pour
oui,
les propriétaires bailleurs.
Hein. Oui, bien sûr. Non, là, on va encore vers un truc, vers une usine à gaz dont la France a le secret, avec des engagements de travaux, mais quand, quoi, j'ai plus l'argent, j'ai j'ai des problèmes de santé, je suis plus assurable pour un crédit. Ça va être d'une complexité rare. Et saluons pour une fois, comme quoi, faut pas être sectaire, les Verts, les écolos, qu'on fait, je pense, la proposition la plus simple pour avancer sur ce problème des passoires thermiques, c'est Marine Tondelier qui l'a proposé. Je trouve ça simple. Il s'agit tout simplement, par exemple, de dire, pour les passoires thermiques, ben, vous louez, si vous avez un G, vous louez 30% moins cher. Si vous avez un F, vous louez 20% moins cher. Basta.
On fait simple et on prend l'impact aussi pour le loyer de celles et ceux qui seront locataires de ces passoires, qui seront potentiellement donc de nouveau autorisés à la location, de se dire bah en fait vous allez plus payer plus cher vos consommations. Donc du coup moyennant quoi
on équilibre effectivement. C'est simple, il y a pas besoin de critères invraisemblablement compliqués. Les gens ont quand même un toit, même s'il est pas parfait. Et puis quand les gens ont les moyens, eh bien ils font les travaux pour se remettre au prix du marché. Et puis tout va bien. Donc c'est quand même incitatif à faire des travaux. Et au moins, on a un truc simple. Donc, vous voyez, comme quoi, il ne faut pas être sectaire. Une proposition des Verts qui pourrait être retenue. Bon, bah voilà.
Mais hein, oui, mais parce que moi, je vous fais venir parce que vous êtes des gens nuancés. Mais c'est précisément pour ça. Et j'aime bien les gens pas sectaires. Bon, maintenant, on a bouclé la boucle. On reparlera évidemment de ce calendrier passoire. Mais en attendant, quand même, bienvenue dans le monde merveilleux des déclarations. Mais oui. On est tous dedans. Ou alors, on a oublié. On s'est dit, oulala, il va falloir que je m'y mette bientôt. Première question, Jean-Pascal. Justement, dans cette période un peu particulière et propice à la réflexion de ce que je vais faire de mon patrimoine, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vos clients reviennent ou vont vers l'immobilier ou pas?
Je serais nuancé, justement.
Toujours. Toujours.
Ça reste un marché difficile. Je dirais que les professionnels sont en difficulté. Ils ont beaucoup souffert, ils manquent de trésorerie, ils ont du stock à vendre. Donc, ils sont toujours plutôt vendeurs, dans ceux que je vois, moi. En revanche, chez les particuliers, le vent tourne un peu pour ceux qui ont la chance d'avoir de la trésorerie. Donc, comme on l'avait déjà évoqué ici, il y a des opportunités qui commencent à se présenter, des biens qui commencent à être pas trop chers, assez rentables. Donc moi, je commence à avoir des clients qui achètent.
Un début d'appétit pour l'IMO, c'est bien. Bon, bah super, mais du coup, ça y est. Donc on est dans la décla pour ceux qui sont déjà sur l'immobilier. Là, il va falloir qu'ils déclarent leurs revenus fonciers. Oui. Alors, s'ils sont meublés ou pas, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme régime, régime réel, micro-foncier. Là, il va falloir faire la distinction au moment de la déclaration.
Exactement. Alors d'abord, c'est le dernier jour pour les déclarations des SCI. Donc, réveillez-vous si ce n'est pas fait.
Point calendrier.
C'est important. Et sinon, effectivement, la grande question qu'il faut se poser quand on a des chiffres d'affaires qui ne sont pas énormes, c'est est-ce qu'on va au micro ou est-ce qu'on n'y va pas?
Est-ce qu'on va au régime réel ou est-ce qu'on va au micro?
Voilà, c'est ça. Le régime micro, c'est la facilité. On a juste à mettre un chiffre dans une case et les charges sont proportionnelles, terminées. Donc, par fainéantise ou par méconnaissance, beaucoup de gens le font.
Par simplicité aussi.
Par simplicité, voilà, on va être plus sympa.
C'est pas sympa de traiter les gens de fainéants.
C'est naturel. Moi, je mets les gens en garde quand même. Réellement, les abattements, 30%, c'est pas beaucoup, 30% d'abattement. L'immobilier, c'est pas un actif rentable. Et bien souvent, vous avez bien plus de 30% de charges. Donc, faites vos calculs. Très souvent, moi, je le vois dans les déclarations qu'on fait, c'est très rare qu'on arbitre vers le micro quand on a le choix.
Vaut mieux choisir le réel. Voilà. Ça demande un peu plus de taf, mais vaut mieux choisir le réel.
Même quand vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt, même quand vous n'avez pas eu de lourds travaux, bien souvent, vous avez quand même intérêt à être au réel. Alors, dès que vous avez un emprunt en cours, regardez bien notamment les charges de copropriété. Vous avez des années où il y a eu des travaux dans la copro, il y a eu des charges qui sont supérieures et d'un coup, vous explosez les 30%.
Ouais, donc voilà, donc vigilance là-dessus. Juste d'un mot après, justement, puisque vous parliez des intérêts d'emprunt, ça va nous renvoyer vers Stéphane, mais si on a un comptable, c'est question d'Alban en régie, qui est toujours passionné par nos sujets, qu'on remercie pour ses interventions toujours pertinentes, c'est lui qui fait la déclaration, c'est lui qui gère, c'est pas...
Alors, normalement, c'est lui, mais souvent, quand même, le comptable, il délègue à un autre comptable qui vous connaît pas forcément... et qui va appliquer ce qui a été fait l'année précédente. D'accord. Sans forcément faire l'arbitrage. Donc, le déléguer à un comptable, ce n'est pas un problème. Les comptes seront justes, c'est son métier. Maintenant, relisez ce qu'il fait. Et si vous vous rendez compte que l'option qui est choisie n'est pas la bonne, il est toujours temps d'en changer. N'oubliez pas non plus, surtout parfois, on est même déficitaire. Le déficit foncier, ça s'accumule, ça s'impute. C'est vraiment dommage de le perdre.
Oui, ou sinon, vous appelez Jean-Pascal, du coup.
Aussi.
Alban, il a le numéro, de façon, Jean-Pascal en régie. Du coup, justement, Stéphane, ça nous envoie vers un autre sujet. On parlait justement de ces intérêts d'emprunt qui sont déductibles et qu'il ne faut pas oublier à chaque fois. Vous nous dites, parfois, c'est terminé. On n'a plus d'intérêt d'emprunt. On a avancé au cours de le remboursement de son crédit. On n'a plus rien, finalement, à soustraire. on arrive, vous dites, moi je le découvre, on arrive avec positif à l'impôt, on devient positif, on redevient positif à l'impôt. Et dans ces cas-là, votre conseil, c'est vendez.
Oui, parce que effectivement, les déclarations, c'est le moment de faire un point où on va se dire bon voilà, cet appartement, etc. Où j'en suis, est-ce que je deviens positif à l'impôt? Parce que les premières années, si on a financé, on a les intérêts d'emprunt. Parfois, on a fait des travaux au début pour rendre le truc un peu joli, etc. Le louer un peu plus cher, etc. Donc les premières années, en général, on est assez peu fiscalisé, voire pas du tout, ouais. Notamment avec des gros intérêts d'emprunt. Les taux d'intérêt ont augmenté, donc des intérêts d'emprunt, des travaux éventuels, de l'amortissement meublé éventuel.
Et mais n'oubliez pas la taxe foncière d'ailleurs. Hein.
La taxe foncière, bien sûr.
Il m'a regardé, il a vu que j'avais bien retenu ma leçon.
À déduire, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, quand on devient positif à l'impôt, faut réellement se poser la question de vendre. Alors, on peut aussi aller faire de nouvelles opérations qui vont elles-mêmes déclencher du déficit éventuellement, qui vont absorber.
C'est-à-dire, je vends pour acheter, quoi.
Alors, oui, ou alors on peut conserver si on peut faire une nouvelle opération, notamment où on va aller chercher des travaux du déficit qui vont absorber votre opération existante. Mais si on ne peut pas ou on ne veut pas faire une nouvelle opération, le bon conseil, c'est bien souvent de vendre. Parce que l'immobilier locatif, c'est un bâta pour créer du patrimoine. En revanche, quand ce patrimoine est créé et qu'on devient donc positif à l'impôt, c'est anti-économique de conserver. À part si on est vraiment retraité dans une petite tranche d'imposition à 11%, etc. Mais dès qu'on est à 30%, n'importe quelle coupe de cadre est à 30%. Dès que vous êtes à 30% plus prélèvements sociaux à 17,2 ou 18,6 en meublé, ça fait qu'il y a la moitié qui repart de vos loyers nets qui repartent en impôts et prélèvements sociaux. Donc c'est anti-économique de conserver. Donc il faut vendre. Ça fait tourner le stock, c'est bien pour les agents immobiliers, c'est bien aussi pour l'État qui va prendre des frais de mutation à la vente, etc. Alors vendre pour recommencer, surtout. Mais comme vous avez un apport personnel, parce que vous vendez un bien, vous pouvez voir peut-être un meilleur quartier, ou plus grand, voire d'un appartement faire deux, si vous avez un apport personnel, etc. Et puis, comme vous avez un apport personnel avec le fruit de la vente, vous pouvez effectivement monter en gamme, ou d'un appartement faire deux, etc. Puisque vous avez besoin de moins de rendement avec votre apport personnel. Donc, c'est quand même intéressant. Et sur une nouvelle opération, il faut aller chercher les éponges à loyer, c'est-à-dire, bien sûr, les intérêts d'emprunt. Donc, essayez d'emprunter le maximum, même si vous êtes si vous avez un apport, donc quand même emprunter le maximum. Des travaux pour faire du déficit foncier, ça reste quand même super intéressant. Des amortissements, si vous êtes en meublé ou en SCI à l'IS. Enfin, il y a des moyens pour encaisser des loyers sans fiscalité, mais il faut les connaître et surtout arbitrer dès qu'on est positif à l'impôt. Ne pas faire d'affectif, ne pas se dire « Ah, mon petit studio, okay, c'est toujours bien passé, il est sympa, etc. » Pas d'affectif. Le jour où on est positif, il faut sérieusement se poser la question de vendre, parce qu'encore une fois, c'est anti-économique de conserver dès qu'on est positif à l'impôt.
C'est marrant, j'ai pas entendu le mot Jeanbrun dedans. Dispositif Jeanbrun. Vous conseillez pas si par exemple je suis positive à l'impôt et que.
Jeanbrun, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant.
Ça sera pour l'année prochaine, on en parlera l'année prochaine, du coup. Mais
Le Jeanbrun, c'est intéressant pour très peu de contribuables, mais c'est quand même intéressant, il faut le dire, pour les gens qui sont dans une tranche élevée.
Élevée au-delà de
41. Qui ont des revenus fonciers, justement. Qui ont déjà des revenus fonciers existant, puisque là, les déficits vont venir absorber des loyers qui sont des loyers existants, qui sont taxés à 41, 45, plus prélèvements sociaux. Donc là, on atteint des sommets de fiscalité. Donc le Jeanbrun, pour les tranches élevées plus revenus fonciers existants, ça a un intérêt. Sinon, bon, c'est quand même un peu compliqué, les engagements sont quand même un peu lourds, longs, donc en ancien notamment, il vaut mieux faire du déficit. Hein. On a fait des simulations avec nos amis de Top Invest, en ancien, même le Jeanbrun nouvelle version.
Même à 20% de travaux, des PED.
Même à 20% de travaux, etc. Le déficit foncier est plus compétitif. En termes de rendement.
Vous le conseillez pas non plus, Jeanbrun?
C'est pareil, franchement, le Jeanbrun, c'est vraiment un dispositif de niche qui va intéresser certains contribuables. Effectivement, plutôt ceux qui sont déjà aisés, donc je suis pas sûr qu'ils aient bien ciblé leur affaire.
Bon, voilà. On parlait quand même taxe foncière et l'idée de, rappelez-vous, déduire la taxe foncière, etc. au moment de votre déclaration. Tiens, sur la taxe foncière, vous m'avez alerté. Moi, je les avais pas vus, ces chiffres de recettes de taxe foncière. 55 milliards d'euros générés en 2025. Merci les propriétaires.
C'est ça, c'est quand même impressionnant, tant mieux pour les collectivités locales, mais on peut quand même s'interroger sur la place que prend ce prélèvement dans l'économie générale. La taxe foncière, moi quand j'ai commencé à travailler, c'était vraiment un impôt marginal, généralement peu onéreux, qui ne représentaient pas un gros poste dans la fiscalité. Aujourd'hui, 55 milliards. Il faut voir que l'impôt sur les sociétés, on tourne autour des 60. L'impôt sur le revenu, autour des 80. Donc, on entre dans la cour des grands sur les taxes foncières et on peut se poser la question des choix politiques qui sont derrière.
Bah après, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, parce que j'imagine que quand vous cumuliez à l'époque les deux...
Certes, mais justement, la taxe d'habitation, elle frappait les occupants. La taxe foncière, elle frappe les propriétaires. Et donc, en transférant la taxation des occupants vers la taxation des propriétaires, on alourdit fortement leur fiscalité à eux. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait après des conséquences sur tout un secteur et sur le fait qu'il n'y a plus tellement d'appartements qui sont mis à disposition. Donc, c'est des chiffres qu'on pouvait anticiper. Maintenant, ils arrivent. Justement, c'est le moment de faire le bilan, de les regarder et de voir vraiment au niveau de nos dirigeants et législateurs si c'est vraiment ce qu'ils voulaient.
Ouais, parce que c'est ça, hein, regardez, donc c'est 1117 euros de taxes foncières en moyenne par propriétaire, quand je regarde les propriétaires particuliers, contre 1082 précisément. Alors attendez, parce que si je prends entreprise, SCI, copropriété, office HLM, on arrive à une cotisation moyenne de près de 1700 euros.
Voilà, c'est colossal, sachant que les offices HLM ont des exonérations importantes, surtout sur les 20 premières années. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça pèse pour les autres.
Ouais, non, mais c'est un vrai sujet quand même, cette hausse des taxes foncières. Et on n'est pas, on va pas refaire, mais on refera le sketch au moment du débat budgétaire, parce que je pense que globalement, on va se reposer la question toujours des valeurs locatives et de la révision des valeurs locatives. Mais tout ça emmènera de fait aussi, sans doute, une nouvelle augmentation des taxes foncières, sans doute.
Bien sûr, parce que les élections sont terminées et ça nous amène à la question, qu'est-ce qu'on veut comme société? On était sur un discours tous propriétaires, tous libres. On ne peut pas aller
alors
vers ça.
Alors ça, c'était du temps de 2007, si je ne dis pas de bêtises, voilà, la France de propriétaires, Nicolas Sarkozy. Après, on est passé à une France de locataires.
Voilà. Est-ce qu'on veut une France de propriétaires? Est-ce qu'on veut une France de locataires? Et si on veut une France de locataires, qu'est-ce que ça dit de l'indépendance et de l'autonomie des citoyens?
Ouais, ben ça, on est bien d'accord. Messieurs, il nous reste 3 minutes 40. Précisément. Et il faut quand même que je vous parle de mon truc à moi, que je suis chaque année, quand revient cette petite période. La plateforme, je déclare mes biens immobiliers. Ben oui, on parlait déclaration d'impôts. Il faut que je fasse quoi là? Il faut que j'y aille? Il faut que nos auditeurs, téléspectateurs aillent sur la plateforme? Est-ce qu'ils risquent une amende? Qu'est-ce qu'ils doivent déclarer précisément?
Non. Alors, vous avez vu que c'était passé, donc il n'y aura pas d'amende encore cette année.
Alors,
pour les particuliers. Donc moi, je dis à tout le monde, n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Donc, il n'y aura pas d'amende encore cette année pour les particuliers. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que les grands propriétaires, donc les bailleurs sociaux, les foncières, les actions logement, etc.,
n'ont pas
rempli leur obligation.
Ah mince.
Mais vous savez, actions logement, ils ont 1 million de logements. Donc, vous imaginez le nombre de collaborateurs qu'il faut pour aller en plus sur cette interface qui est invraisemblablement compliquée.
Oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal de bugs. C'est pour ça que je le dis avec le sourire, je refais pas le sketch, mais il y a eu quand même pas mal de bugs.
Rentrer, rien que pour Action Logement, 1 million de logements à rentrer comme ça. Non, mais c'est à se taper la tête contre les murs.
Et il faut si d'aventure j'aurais envie de faire les choses bien et que j'étais pas complètement hermétique à l'administration et à l'idée de faire les choses bien. Je dis quoi, en fait, sur ce document? Je donne quoi?
Alors, moi, en ma qualité d'auxiliaire de justice, je vais vous dire allez-y, hein, bien sûr, c'est la moindre des choses. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous allez vérifier d'abord les indications qu'a mis l'administration fiscale sur la nature de votre bien, sur sa surface, sur le nombre de pièces, sur son affectation.
L'affectation, c'est résidence principale, résidence principale, secondaire,
logement, bureau, commerce, c'est quand même très important. Et surtout, vous allez renseigner correctement qui est l'occupant du bien au 1er janvier. Si vous ne le faites pas, vous allez vous prendre des impositions automatiques qui correspondent pas à la réalité. Voilà, si vous allez vous prendre la taxe d'habitation, vous allez vous prendre la taxe sur logement vacant. Il y a des gens qui vont se prendre une taxe d'habitation alors que ce sont plus eux qui sont occupants du bien. Vous allez vers des problèmes. Donc voilà pourquoi, même s'il n'y a pas d'amende, il faut quand même faire attention à ce que ce soit pas n'importe quoi ce que l'administration a mis. Il n'y a que vous qui pouvez le vérifier.
Et Alban me demandait, mais ça, on peut pas déjà le faire sur impôts.gouv. Il faut absolument aller sur cette plateforme.
D'impôts.gouv, en fait, vous basculez, vous cliquez sur un bouton et vous basculez sur le bon service. Hein.
Mais bon, oui, il faut le faire. Maintenant, si on ne le fait pas, a priori, cette année encore, on échappera...
Il n'y aura pas d'amende.
Oh, le regard de Stéphane, il est là, il est en mode grève.
Non, mais globalement, l'administration fiscale, c'est très bien, vous trouvez pour vous envoyer la taxe foncière, justement. Et ensuite, effectivement, si ce bien, c'est du locatif, il le voit sur votre déclaration d'impôt.
Ouais.
C'est du locatif, vous le louez, etc. Si vous ne louez pas le bien, ça veut dire que vous en profitez vous-même, ou alors que c'est vacant, etc. Donc, c'est quand même refaire les choses, redire les choses que l'administration sait déjà. Alors effectivement, avec des précisions, etc.
Mais est-ce que
mais
ça
pourrait... Mme Michu l'a fait. Mme Michu a fait sa déclaration. Les grands propriétaires ne l'ont pas fait. Faut peut-être
poser la question. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que ça peut pas permettre aussi de réévaluer? Parce que Alban me pose une question que je vous avais posée d'ailleurs au téléphone en préparant l'émission, Jean-Pascal. Est-ce qu'il faut donner la valeur ou la nouvelle évaluation de la valeur de ce patrimoine immobilier?
Non. L'objectif est de déterminer sa nature et son occupation.
D'accord.
Pas sa valeur.
La valeur, on s'en fiche. T'inquiète pas, Alban, tu payeras pas l'impôt sur la fortune. Je blague également. Merci à tous les deux. Merci à Stéphane Descartiers, SD Conseil et Formation. Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat. Notre duo de choc de la fiscalité. Bon courage à tous ceux qui se lancent dans leurs déclarations. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.